Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dr Jekyll, Mr Hyde, le dédoublement de personnalité, c'est aussi un problème qui touche certaines équipes de football. Les Bleus ont montré deux visages ce vendredi au Stade de France face à la Colombie. L'un avec un large sourire, l'autre de ses visages a reçu une petite paire de claques. Il paraît que ça peut éventuellement faire du bien, une paire de claques. On va voir ce qu'en pense notre équipe du lundi. Bonjour Marc Libra.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour Naïm Moniol.
Salut Hugo, salut à tous.
Quand je parle de paire de claques, c'est des paires de claques virtuelles. Hein. Nous ne défendons
bien
pas
sûr,
la violence. Je dis
absolument.
Ça parce que vous êtes plutôt costaud, donc je voudrais pas vous donner des idées. Je suis plutôt du genre frêle, moi. Des équipes africaines préparent également leur mondial et disputent leurs derniers matchs amicaux avant l'annonce des listes de joueurs retenus pour la Russie. Et le Nigeria a de nouveau fait forte impression, contrairement au Sénégal. Mais quelle valeur donner à ces résultats? Une question récurrente quand on revient sur des matchs amicaux. Je vous la poserai tout à l'heure. Focus également sur la Tunisie qui mise sur une intégration rapide de deux joueurs binationaux qui ont rejoint récemment les Aigles de Carthage. Et puis nous évoquerons la bonne forme des équipes sud-américaines qui seront présentes en Russie cet été. Plusieurs raisons à cette forme étincelante. Alejandro Valente viendra nous les exposer. Ce sera aussi un clin d'œil à la grande absence du jour, la dame Annie Gasnier, qui aime l'Amérique du Sud, qui aime également l'Afrique, ça tombe bien, vous la retrouverez à partir de mercredi à Dakar, je ne vous en dis pas plus. Radio Foot, c'est parti.
Ça c'est bon pour Lucas Digne, c'est bon de centre. Olivier Giroud est là, le voilà, le renard en surface, le voilà qui sur un pas, sur une occasion, vient inscrire le 30e but de sa carrière en bleu. Entre les jambes, allez, c'est bon, c'est à jouer. Allez, avec Griezmann devant, avec Giroud à l'opposé, oui. C'est Griezmann qui est choisi. Oh, derrière, oh, la frappe du pied gauche. Oh, ils sont gourmands. Oh, magnifique, jusqu'à Thomas Lemar. Et Muriel, nouveau centre, un but. Oh, personne ne la touche, ça rebondit, ça va finir sa course dans le petit filet opposé. Attention Carlos Sanchez, parce que ça c'est un bon ballon qui casse ligne.
Oh là là,
le duo que l'on craignait, Ramez passeur, Falcao buteur, et ça fait deux partout. Hugo Lloris peut très bien le sortir, et il n'y parviendra pas, ça fait 3 pour la Colombie, et 2 pour les Bleus. Les Colombiens ont totalement fait basculer cette rencontre.
Première mi-temps bonne, de bons enchaînements. On aurait pu marquer plus de buts, on n'a pas su se mettre à l'abri et qui plus est, on a encaissé ce but qui a relancé sur une de leurs demi-occases en première mi-temps, qui les a relancés. Deuxième période, on savait qu'ils allaient pousser, on était prévenus, mais on n'a pas été capable de rivaliser dans l'agressivité, la détermination, l'engagement, des valeurs qui sont les nôtres en temps normal et qui sont surtout primordiales pour un match de foot. Quand on prend ce genre de claque, des fois ça fait du bien pour après mieux rebondir.
Oui, il y a pas que moi qui le dis. Olivier Giroud, il le dit, ça peut faire du bien, une bonne paire de claques. La Coupe du Monde se rapproche, les Bleus intensifient leur préparation. Jouer contre une équipe sud-américaine en amical, c'est une bonne idée. Quand on s'apprête à rencontrer le Pérou en phase de poule, encore faut-il bien négocier son affaire. L'équipe de France menait donc 2-0 après même pas une demi-heure de jeu face à la Colombie. Ce vendredi au Stade de France, elle s'est finalement inclinée 3-2. Ce revers a sonné, pas mal de ses supporters doivent-ils s'alarmer, s'inquiéter ou bien au contraire se dire que les Bleus sortiront grandis de cette défaite un peu embarrassante, Marc Libra.
J'ai beaucoup de mal quand on dit victoire, enfin une défaite qui peut les aider à grandir.
Une défaite utile, ça vous parle pas, ça?
Non, ça sert pas à grand chose. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il faudrait peut-être plusieurs minutes pour en parler.
Vous avez tout votre
temps. Équipe, ouais, mais cette équipe manque de patrons, c'est pas forcément nouveau. Ce qui me déçoit et ce qui me dérange terriblement, c'est qu'en fin de match, on nous explique, comme Giroud peut le dire, ouais, on s'attendait à ça, mais en fait, non, mais ça nous sert. En fait, on se rend compte que Deschamps a peut-être cette philosophie de la gagne, mais il ne peut pas insuffler des valeurs que ses joueurs n'ont pas aujourd'hui. Deschamps veut une équipe propre, bien élevée. Je dis pas d'avoir des fous, des guerriers. Je dis juste qu'il faut à un moment donné, il faut avoir des combattants sur le terrain. On parle souvent du match face à l'Ukraine en 2013 qui nous sauve. C'est un sacco. Faut se rappeler, c'est un Sacco quand même qui sauve cette
doublé
équipe de France.
Doublé en barrage retour.
Mais outre le doublé, c'est ce que Sacco arrivait à générer sur un terrain, son envie, sa hargne, sa tête, ses yeux. Vous voyez, quand on voit les Colombiens en seconde période, on les voit dans les 10 dernières minutes, la plupart des joueurs sont tous debout, ils imprègnent quelque chose, les remplaçants qui rentrent, ils ont fait la différence, ils ont envie. Si on prend les remplaçants français, à part Ben Yedder qui peut être à part parce qu'un attaquant sans le ballon des autres peut pas jouer, même Pogba qui rentre, qui n'en a rien à faire, qui boude, qui n'est pas content, c'est pas la bonne attitude.
Hernandez pareil, Dembélé,
c'est... Et on nous dit, ah mais c'est pas grave, puisque Varane nous a annoncé aussi dans une émission sur TF1, non mais on est en pleine préparation. La différence c'est que ces Colombiens sont déjà préparés pour la Coupe du Monde, et nous on se prépare. Mais la Coupe du Monde elle est partie quand l'Euro c'est fini. Là on se met, on nous dit, on a le temps, ça va nous servir. Et si on parle dans cet état d'esprit-là, et puis après on nous dit, mais de toute façon... Ça va passer puisqu'on a que le Danemark, l'Australie et le Pérou, c'est facile.
Attention à ça.
Donc on verra bien.
Excusez-moi, c'est intéressant. C'était plutôt clair comme exposé. Alors moi, ce que je retiens, c'est que finalement cette défaite, c'est pas forcément qu'elle est inutile dans l'absolu, mais elle est inutile si vous n'avez pas les joueurs pour justement sonner la révolte qu'elle devrait amener.
Elle est inutile si vous n'avez pas les joueurs pour se relever. Elle est surtout inutile parce que footballistiquement, on n'a pas été battu footballistiquement, c'est-à-dire que sur ce qu'on voit sur la première demi-heure de jeu, l'équipe de France a des arguments 10-20 fois supérieurs à ce qu'on voit de la Colombie. Moi, j'ai pas été surpris de voir la Colombie mettre autant d'impact, j'ai pas non plus été choqué de voir le niveau de jeu de la Colombie. Ce qui est quand même beaucoup plus problématique, et on en parlait un petit peu avant le début de l'émission, c'est que on en arrive à ne plus être surpris de ce genre de match. C'est-à-dire que si vous prenez la défaite contre la Suède, le nul contre le Luxembourg, les deux victoires laborieuses contre la Bulgarie, la Biélorussie, ce match-là, on se rend compte que par parcimonie, par petite touche, 10 minutes, un quart d'heure, là une heure, l'équipe de France disparaît complètement des débats. Et ça, c'est devenu régulier, récurrent dans le jeu de l'équipe de France. Autant on a 10, 15 minutes, 20 minutes, on est capable d'enchaînements magnifiques, autant sur 10, 15 minutes, maintenant une heure, on disparaît complètement des débats. Ça, c'est grave, parce que ça veut dire qu'une équipe n'a plus besoin de bien jouer pour nous battre, pour être dangereuse. Alors, l'Australie mise à part, de grosses lacunes, on est dans une poule avec le Danemark, le Pérou, c'est typiquement ce que je dis, c'est des équipes qui footballistiquement n'auront absolument rien à nous montrer, mais qui en termes d'impact, de grinta, de motivation, ils vont nous rentrer dedans. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas gérer. Ce qui est encore plus, et j'étais aussi un petit peu long, ce qui est d'autant plus dommage quand on parle d'absence de patron, d'absence de leader, c'est que on avait exactement le même discours il y a 4 ans après l'élimination que l'Allemagne. Oh, on n'a pas de leader, on n'a pas de patron, oui mais ils sont jeunes. Oui mais aujourd'hui ils ont 4 ans de plus. On n'a toujours pas de patron, on n'a toujours pas de leader, bon, par contre on a toujours les mêmes joueurs. Donc à un moment donné, il va quand même falloir se réveiller. Voilà, Didier Deschamps, si tu nous écoutes, il va falloir faire quelque chose.
Une entrée en jeu très remarquée dès le début de l'émission. Freddy Koula nous a rejoint. Bonjour Freddy.
Salut à tous. Pardon à tous mes amis, mais ce que je faisais, c'est que je voulais écouter le début de la conférence de presse de Didier Deschamps. Visiblement, il est
avant le match de demain contre la Russie, face à la Russie. Alors là, on revient sur le match face à la Colombie, la défaite un peu embarrassante. La question posée, Freddy, est-ce que cette défaite et ce scénario renversant, en tout cas en faveur de la Colombie, peut être utile, paradoxalement, à l'équipe de France, l'aider à grandir dans sa quête d'un bon parcours en Russie?
Oui, sans aucun doute, parce que, souvenez-vous, c'est la première défaite depuis un an, je pense, de l'équipe de France. Et on se rend compte qu'en fait, depuis l'Euro, l'équipe de France est restée sur une sorte de piédestal où ils ont pensé qu'ils étaient déjà dans la peau de ces grandes équipes-là qui sont rodées depuis des années. On a vu d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé, mais en regardant le match entre l'Allemagne et l'Espagne, vous comprenez fondamentalement l'écart qu'il y a entre les grandes équipes, entre guillemets, les favorites et cette équipe de France-là.
Donc, même la prestation du Portugal contre l'Égypte.
Encore que le Portugal, ça s'est joué vers la fin, mais fondamentalement,
pour que ça joue à la fin, il faut jouer jusqu'à la fin.
Ouais, bien sûr.
Faut pas arrêter à la 28e.
Voilà, mais l'équipe de France est une équipe jeune. Je pense que...
Non, alors...
Cette équipe de quand on voit la moyenne en défense, la moyenne c'est 24 ans,
s'il vous plaît,
de moyenne d'âge.
Alors,
et puis
je
la
peux juste dire un truc, Freddy, jeune, alors t'es peut-être pas encore arrivé dans le studio, cette histoire de l'équipe de France, elle est jeune et Patin et Couffin, on en a parlé il y a une minute, c'est la même globalement sur 23 joueurs, vous en avez au moins 15 qui étaient là en 2014, les Griezmann, les Varane, les Pogba et compagnie, Lloris et machin, ils étaient là il y a 4 ans. Faut arrêter de dire ils sont jeunes, ils sont ceci, ils sont cela. Ça fait 6-7-8 ans qu'ils sont professionnels dans les meilleurs clubs du monde. Il y a des mecs qui n'ont pas le tiers de leur expérience, qui sont 10 fois plus dangereux que
moi. On parle du match face à la Colombie. Je sais pas si vous avez revu, mais regardez la défense. La moyenne d'âge, c'est 24 ans. Lucadine, qui n'est pas titulaire dans son club.
Excuse-moi, Varane, il joue au Real Madrid. Mais Varane, il a gagné 3 Ligues des Champions. Umtiti, il est titulaire à Barcelone. Sidi Bey, il a fait demi-finale de Ligue des Champions.
Ça fait 3 ans qu'il est au top niveau.
Non, mais faut arrêter, s'il te plaît, Freddy.
Regarde Sidi Bey.
Mais si tu prends la défense de la Colombie, il joue où, les mecs?
Je vous propose de laisser
Mbappé. Je suis d'accord, mais on parle du match. Je parle globalement.
Freddy, je vous propose de laisser Marc Livra justement arbitrer un peu ce débat. Est-ce que l'inexpérience, c'est un argument que peuvent faire valoir les Français?
L'inexpérience, le seul qui peut parler d'inexpérience, c'est peut-être Mbappé, qui n'est pas encore, ça fait depuis bientôt deux ans, qui joue la Ligue des Champions à très haut niveau. Mais aujourd'hui, quand on a 25 ans, on n'est plus un jeune. Oui. On n'est plus un jeune du tout. Pogba, depuis 2014, on nous vend avec Griezmann que c'est la référence. Griezmann a évolué, Pogba n'a pas évolué. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, il faut se poser les bonnes questions, se dire finalement, Varane, mais qu'est-ce qu'il est fort? Le problème, c'est est-ce qu'il est fort dans une très très grosse équipe ou finalement, si on est dans une équipe plutôt moyenne, il est moyen. C'est là la question qu'il faut se poser. C'est ça le gros débat aujourd'hui. La plupart des joueurs qui évoluent dans des très grands clubs. Mais moi, j'ai eu la chance de jouer avec la grosse équipe de l'OM. Vous savez comme c'est facile de jouer? Mais c'est très facile. Par contre, l'année d'après, je suis parti à l'AS Cannes. Croyez-moi, j'avais pas changé, hein. J'avais pas évolué. J'avais pris 6 mois de plus. Mais qu'est-ce que c'est dur? Et puis après, je suis reparti à Marseille. Mais qu'est-ce que c'est? Et puis après, je suis reparti à Guingamp. Donc, d'évoluer aujourd'hui, vous mettez quelqu'un dans l'effectif du PSG, de Barcelone. Croyez-moi, les ballons, ils arrivent tout le temps très bien. Les terrains sont toujours très bons. Tout est très bien. Et quand on arrive à une équipe de France, si aujourd'hui, c'est les Varane, c'est les Koscielny, dont on parlait énormément en disant, c'est la référence, on va s'appuyer sur eux. Et le problème, c'est que Griezmann, il ne veut pas être un patron. Et je le comprends. Ça ne s'apprend pas. On a encore dit à la conférence de presse avant le match, la veille, à Griezmann, vous pouvez pas être le patron. Mais lui, il a dit, laissez-moi tranquille. Moi, je veux jouer au football. Il n'y a pas de patron. Donc, tant qu'il n'y aura pas de patron dans une grosse équipe, quelqu'un qui peut
Il faut ajouter quand même que pour cet argument de l'inexpérience, excusez-moi, si vous prenez les deux meilleurs Français du match, c'est Kanté, c'est Lemar, mais ils ont quelle expérience Kanté et Lemar par rapport à Varane, par rapport à Umtiti, par rapport à Digne. Digne était là en 2014.
En tout cas, ils étaient pas là en 2014. Bah voilà, ils étaient même pas là.
Ils sont arrivés après l'Euro, les mecs. Donc cette histoire de l'expérience et l'inexpérience, ça ne peut pas tenir la route, pas avec une équipe qui a déjà fait une Coupe du Monde.
Alors Freddy, je voudrais juste qu'on s'attarde un petit peu sur certaines individualités. On parle du manque de leadership. Moi, j'ai envie de parler donc forcément du capitaine. C'est censé être lui un peu le qui montre le cap. Hugo Lloris. Coupable, on va dire, ou en tout cas pas irréprochable sur le premier but colombien de Muriel. Hugo Lloris, il perd des points avec ce genre de prestations qui mettent à la fois en valeur ses limites en tant que gardien de but, mais aussi ses limites peut-être en tant que leader d'équipe.
Hugo Lloris, en tant que titulaire, il va rester indéboulonnable, mais en tant que capitaine, souvenez-vous, je pense quand Deschamps est venu, il y a eu la problématique qui s'est posée sur est-ce qu'il faut garder le capitanat en tant que gardien de but, Hugo Lloris, ou il faut le donner à un joueur de champ pour que le message soit transmis beaucoup plus rapidement. Mais Lloris a un caractère. Je suis désolé, j'ai vu le débat dans pas mal de médias français en disant qu'il manque un aboyeur, il manque quelqu'un qui crie sur ses qui apporte ce leadership là, mais Hugo Lloris l'a montré depuis des années, je pense depuis Lyon, on a montré que c'est une grande gueule, peut-être pas suffisamment aussi grande que celle de Patrice Evra ou celle d'un autre joueur, mais je pense que voilà, il manque peut-être quelqu'un dans l'entrejeu qui soit capable de galvaniser les autres. J'ai vu quand ils étaient menés quand ils sont revenus à 2-1 les Colombiens, il manquait quelqu'un qui était en train d'arranger les autres comme peut le faire Sergio Ramos, etc. C'est peut-être ça qui manque à cette équipe de France-là, cette âme. Souvenez-vous, quand la France a gagné, je pense en 98, il y avait des joueurs qui avaient une sorte d'ADN italienne. Cet ADN italien qui fait que on a eu cette grinta, cette envie de gagner à tout prix, et puis c'est ce qui, à chaque fois, me permet de...
Un gardien de but, pour moi, n'apporte rien en tant que capitaine. Par exemple, on va me dire, oui, mais Buffon, qui est d'ailleurs le capitaine, mais Buffon a des vieux grognards qui ont pas besoin d'être coachés. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, cette équipe de France, tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui peut s'appeler Nassan Adiara, ou qui peut s'appeler Nasri, attention, là, j'extrapole, je vais très loin, mais des aboyeurs, des mecs qui emmerdent, qui sont là pour casser le jeu, pour emmerder, et malheureusement, on se rend compte que, un Hugo Lloris qui, je suis désolé de te dire, il est tendre, il est gentil, c'est pas un aboyeur, mais pas du tout, je t'assure, je l'ai croisé à Nice, à Lyon, je l'ai fait plusieurs fois, c'est quelqu'un qui est foncièrement très gentil, et Deschamps, c'est pareil, il ne veut pas quelqu'un qui va contrarier, parce que là, à un moment donné, s'il y a un aboyeur, un vrai au milieu du terrain, il va voir le coach, qu'est-ce qu'on fait? Lui, il faut le sortir, lui, il faut le rentrer. Il faut prendre les joueurs par le bras et leur tirer un peu dessus. Et là, malheureusement, il y en a un qui a parlé, c'est Deschamps, parce que c'est la plus grande gueule, et ça l'arrange très bien, il faut pas l'embêter.
Alors justement, Neymonio le dit, Didier Deschamps, parce que là on parle des joueurs, mais Didier Deschamps qui est censé être un meneur d'hommes, on a vu qu'il a pas réussi. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais là on a l'impression qu'il a été battu sur le terrain de l'esprit de la gagne par son homologue Pekerman. Il a également été battu tactiquement, puisqu'il y a eu un recadrage tactique, on va dire, qui a permis à la Colombie aussi de sortir la tête de l'eau. Et donc résultat, est-ce que Didier Deschamps il doit pas aussi faire un peu son autocritique?
Non mais c'est pas la première fois, ça fait plusieurs matchs qu'on dit que Didier Deschamps, d'abord ça fait 6 ans ça fera 6 ans après la Coupe du Monde que Didier Deschamps est là, on cherche encore la patte dans le jeu. Donc ça veut dire que déjà, là, au niveau du foot, au niveau du jeu à proprement parler, il n'est pas encore pleinement, on s'inscrit pas sur la patte Deschamps, premièrement. Deuxièmement, quand on parle de l'absence de leader, il peut aussi les chercher, les leaders. Il peut aussi attraper des mecs comme Pogba, comme Griezmann, les plus anciens, les attraper entre quatre yeux, leur dire, ok,
je peux pas.
T'es là depuis quelques années, maintenant, il faut te, d'accord, et puis tu vas bouger les autres, et puis tu vas haranguer la foule. Et puis après, on a déjà parlé du coaching sur certains matchs moi, sur ce match-là, il fait le coaching qu'il faut, il fait rentrer Hernandez, il fait rentrer Ben Yedder, il fait rentrer Dembélé. Après, les mecs, ils ont pas joué leur carte aussi, hein. Tu vois leur comportement. T'as des mecs qui venaient pour chercher une place pour le mondial, t'as pas vu ça. Mais à un moment donné, ton effectif, tu dois être capable de l'haranguer sur le terrain. C'est bien beau de dire, ah, après le match, il leur a mis une soufflante, oh là là, les murs ont tremblé. Mais pendant le match, il s'est passé quoi aussi? C'est pas après le match qui compte, c'est pendant le match. Deschamps, on l'a vu. Footballistiquement, on cherche sa patte. Humainement, dans la manière de gérer l'effectif, on sait qu'il y a déjà eu des problèmes avec certains joueurs. On sait que c'est pas non plus le type, ce qu'il faisait sur le terrain, il le fait pas en tant que coach. Ça se ressent aujourd'hui.
Quels sont ses leviers, Freddy Koula, à Didier Deschamps? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il va faire, là, par exemple, demain face à la Russie, ou dans les prochains mois, il doit placardiser certains joueurs pour montrer son autorité?
Là, il doit gagner face à la Russie.
Alors, forcément, gagner, la Russie est au plus mal en plus, donc
je pense, ouais.
Mais, est-ce qu'il faut qu'il, écarte peut-être certains joueurs qui ont du mal à montrer, ce qu'on attend d'eux? Je pense, par exemple, à un Pogba, qui était déjà sur le banc, d'ailleurs.
Non, je pense que le problème de Deschamps, déjà, c'est qu'il a trop de certitudes, et de toute façon, il le répète une dizaine de fois en conférence de presse. Il est trop sûr de lui. Certains le surnomment comme un mec têtu, mais le fait d'être têtu, peut-être, ça a apporté des résultats. On se souvient à l'Euro 2016, etc. Mais ça a des limites. Et ces limites-là, il va d'ailleurs les montrer contre la Russie. Il a dit qu'il va rester dans son schéma qu'il avait calculé depuis le début, en donnant du temps de jeu à certains joueurs. Donc, vraisemblablement, même si la Russie est une équipe faible, il faudra voir comment ça va se produire dans le jeu, mais on n'aura pas davantage d'ingrédients qui pourront nous permettre de donner des analyses pertinentes vis-à-vis de ce qui va se produire en Russie.
Vous soulignez, Hugo, le cas Pogba. Si Didier Deschamps, il veut taper du poing, s'imposer et prendre une décision forte, Pogba, faut plus le mettre dans les 23.
Complètement.
C'est pas le mettre sur le banc.
Vous pensez qu'il mérite carrément d'être
vous trouvez aujourd'hui que Paul Pogba est le niveau d'un international français vice-champion d'Europe? Non, excusez-moi, faut être sérieux deux minutes. C'est pas parce qu'il a été à un temps le meilleur joueur du monde qui joue dans un grand club.
On l'a vendu comme
bien
ça.
Bien sûr, attention. Oui, non, mais tu prêches un convaincu, on est entièrement d'accord là-dessus. Mais prendre Pogba, le mettre sur le banc, le faire entrer à 20 minutes de la fin, j'ai presque envie de dire, quelque part, c'est encore trop. Tu veux vraiment taper du poing sur la table, prendre une décision forte, Pogba, tu le mets pas dans les 23.
Pourquoi?
Mais parce qu'il a pas le niveau, Freddy.
Sur sa saison,
il a pas le niveau footballistique.
Sur sa saison,
trouve-moi. Est-ce que t'es capable de me citer deux matchs?
Que le procès, il est injuste avec Pogba.
Mais c'est pas un procès injuste. Regarde ses matchs en équipe de France. Citez-moi un match référence de Paul Pogba.
Sur les derniers rassemblements de l'équipe de France.
Mais c'est pas sur les derniers.
Et même contre la Suède.
Non, d'accord.
Contre la Suède, l'équipe de France avait été baladée. Qui c'est qui était l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France?
Il a jamais été bon, Pogba. Ce joueur n'a pas un match référence en équipe de France. Excuse-moi,
on peut être un peu trop dur avec Pogba. Je comprends, il a un grand talent, certainement un grand potentiel. Beaucoup de gens attendent trop de lui, certainement. Ce qui fait qu'en ce moment, si vous dites que Pogba ne mérite pas d'être en équipe de France, c'est même pas sur le banc.
J'ai très peur,
J'ai très peur
que Pogba rejoigne rapidement la catégorie des mecs qui avaient un gros potentiel et qui ne le montreront jamais. Et qui, au final, on se demandera s'il avait vraiment ce gros potentiel.
Je vous demande de vous arrêter.
Voilà, je crois que le message est clair et je pense qu'il est temps un peu de calmer les esprits sur ce plateau. Le pauvre Paul Pogba, je savais pas que ça pouvait être une telle pomme de discorde.
Si l'équipe de France avait notre jus, notre envie.
En tout cas, tu me mets dans l'axe, Freddy en pointe, c'est bon.
Je vous rappelle en tout cas que la France est en Russie pour affronter le pays hôte de la prochaine Coupe du Monde demain en match amical, match de préparation, hein, parce que amical, c'est peut-être un peu trop léger comme terme. Ce sera à suivre en direct et en fil rouge sur RFI.
And the penalty's been given, and it will be Victor Moses against Bartosz Wielkowski. And the Chelsea man comes out on top, and Nigeria had taken the lead here.
Santi Ngom dans la surface de réparation, Santi, la passe dans l'intervalle, allez, penalty, oh, la frappe, et le but. L'égalisation de Moussa Konaté.
Kim Ziyech, oh, bien joué la fin de corps là d'Hakim Ziyech, la bonne remise là de l'extérieur de Younes Belhanda, le bon ballon en profondeur pour Amrabat dans la surface. Ou oh, alors, est-ce qu'il y a un coup de sifflet? Non. Et finalement, je crois bien que si, penalty en faveur des Lions de l'Atlas. Hakim Ziyech, et ça passe sous le ventre de Marko Dmitrovic. Hakim Ziyech, côté droit, le bon centre d'Hakim Ziyech pour aller de Boutaïb et le Maroc qui repasse devant. Oh, le centre d'Hakim Ziyech, il l'a déposé sur la tête de Khalid Boutaïb et le Maroc qui reprend l'avantage.
حاليا وابي الخزري وابي الخزري ذي قوت وابي الخزري والهدف الاول لصالح المنتخب التونسي
Portugal pode ir com perigo, sai o cruzamento de Quaresma, Ronaldo e o gol! Cristiano Ronaldo! Quaresma, o cabeceamento e é fora de jogo. Fora de jogo, assinalado a Cristiano Ronaldo. Festeja-se o golo de Portugal nas bancadas, vamos ter a intervenção do VAR, atenção, e vamos também à repetição do lance.
Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Oui, vous écoutez bien Radio Foot avec Marc Libra, Naïm Moniol et Freddy Koula. Mais que vient faire Cristiano Ronaldo dans un montage consacré à des buteurs africains? Bah, c'est bien simple, le Ballon d'Or, il a marqué à deux reprises face à une nation du continent, à savoir l'Égypte. Bonjour Frédéric Suto.
Oui, bonjour Hugo, bonjour à tous.
Alors Ronaldo, l'Égypte, vous nous en parlez dans un instant. D'abord, on va faire le point avec vous sur d'autres matchs amicaux des représentants de l'Afrique en Russie. Vous voulez commencer... Par quoi? Le Maroc, la Tunisie, le Maroc.
Allez-y. C'était vendredi, hein, les cinq équipes africaines qualifiées pour le mondial qui avaient un match amical. Le Maroc qui a battu la Serbie, équipe mondialiste, hein, à Turin, 2-1. Les Marocains qui sont là sur leur lancée des éliminatoires. Alors ils ont pris un but face aux Serbes, ils en avaient pas pris lors des éliminatoires, mais quand même cette équipe, elle est sacrément solide. On sent qu'Hervé Renard a son collectif, qu'il a vraiment son groupe, que l'équipe est rodée. Le Maroc qui va essayer de confirmer demain à Casa avec une rencontre face à l'Ouzbékistan.
L'Ouzbékistan.
Les Ouzbeks.
Qui étaient également sur le terrain vendredi face à une équipe africaine.
Oui, c'était le Sénégal. Un partout, les Ouzbeks ont ouvert le score, première mi-temps. Les Sénégalais un peu partout. Alors c'est vrai qu'un peu perdu. C'est vrai qu'Aliou Cissé, le sélectionneur, a fait beaucoup d'essais dans ce match. Hein. Il avait appelé 30 joueurs, un groupe élargi. Il s'en est défendu après la rencontre. À quoi ça sert de convoquer 30 joueurs si je ne leur donne pas du temps de jeu? Voilà ce qu'il a dit, un partout au final, un 3-5-2 inhabituel pour les Lions de la Teranga. On peut s'attendre à revoir les titulaires, les tauliers sur la pelouse demain au Havre, le Sénégal qui retrouvera la Bosnie.
La Tunisie, ça s'est bien passé également.
Ça s'est
à
bien
la maison,
passé,
là.
C'était à Rades, victoire 1-0 face à l'Iran que l'on verra également à la Coupe du Monde. Et l'intérêt côté tunisien, eh bien c'est que là le sélectionneur Nabil Maloul a décidé d'appeler plusieurs binationaux, vous savez, ces joueurs franco-tunisiens qui ont été formés en France, mais qui finalement font le choix de jouer pour la Tunisie. Il y en avait trois au coup d'envoi qui étaient là. Ça s'est bien passé. Ils s'intègrent avec ceux qui ont permis à l'équipe de se qualifier pour la Coupe du Monde. Victoire 1-0. La Tunisie qui retrouve le Costa Rica demain à Nice.
Et si on parlait de la grosse performance de ce vendredi, une victoire à l'extérieur pour les Super Eagles qui s'offrent de nouveau le scalp d'une belle nation mondiale.
Oui, on l'entendait il y a quelques instants, là, le pénalty des Super Eagles, Victor Moses, pénalty généreux, c'est vrai, à Wrocław, face au public polonais, face à la Pologne. Hein, le côté polonais, vous avez quand même Robert Lewandowski qui marque but sur but avec la sélection. Normalement, ben là, il n'est pas parvenu à marquer. Victoire 1-0 des hommes de Garnot Ror, le Nigeria qui va retrouver la Serbie. À Londres, également, la Serbie battue par le Maroc, on vient de le dire.
Allez, on termine, chose promis, chose due, en expliquant pourquoi Cristiano Ronaldo est dans un montage consacré aux buteurs africains. Cristiano Ronaldo, buteur, donc double buteur face à l'Égypte.
Oui, double buteur, 93e et 95e minute, deux centres de Quaresma. Il a mis fin aux espoirs des pharaons d'Égypte, puisque Mohamed Salah, qui lui aussi est dans une forme étincelante depuis quelques semaines, l'attaquant de Liverpool. Il avait ouvert le score, les pharaons croyaient tenir cette victoire majuscule, mais Cristiano Ronaldo est quintuple ballon d'or, et il l'a rappelé à tout le monde en fin de match. Les pharaons ont perdu, l'Égypte qui va essayer de se rattraper face à la Grèce, à Zurich, demain.
Voilà pour les résultats, place aux analyses de nos consultants à présent. Freddy Koula, on va peut-être déjà revenir sur les équipes africaines qui se sont imposées, donc le Maroc, la Tunisie et le Nigeria. Vous leur donnez quelle valeur à ces succès en match de préparation? Je pense notamment à la victoire face au Nigeria, sachant que les trois équipes dont je viens de parler, elles ont affronté des équipes qui seront elles aussi présentes en Russie. Vous donnez quelle valeur à ces matchs amicaux?
Ben, une grande valeur. D'abord, le Nigeria qui est dans une continuité. Souvenez-vous, ils ont gagné contre l'Argentine déjà. Ils ont ensuite gagné là. Ils ont un vrai groupe de jeunes. C'est une équipe qui a été reformée littéralement par Garnett Rohr, ancien sélectionneur du Gabon d'ailleurs, qui est venu avec de nouvelles ambitions, qui a réussi à fédérer les, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes, notamment en termes de management dans la fédération, etc. Il a réussi à remettre tout le monde dans le bain et ils sont dans une dynamique ultra positive. Ils ont un groupe beaucoup plus favorable que celui du Maroc, qui est aussi une équipe extrêmement forte, bien constituée, mais qui malheureusement a la malchance d'être, qui sera dans une poule beaucoup, beaucoup plus forte au milieu. Mais ce sont des matchs amicaux qui montrent en fait que cette année, on a quand même des équipes de très, très haut niveau, parce qu'en plus de cela, on remarque que le niveau s'est hégémonisé et qu'on a des joueurs de bon niveau qui sont dans de top clubs, même si à l'époque, il y avait quelques bons joueurs, notamment à l'époque avec Drogba et quelques joueurs nigériens, notamment, qui étaient dans des grands clubs. Mais là, on en a pas mal qui sont aussi formés en Europe, dans des centres de formation beaucoup plus structurés et qui ont des fondamentaux beaucoup plus reluisants, qui permettent d'être au niveau tactiquement.
Vous êtes d'accord avec ça, Daimonio?
Oui, je suis d'accord.
Il faut accorder de la valeur à ces matchs.
Ah oui, mais c'est jamais anodin d'aller battre la Pologne en Pologne. C'est pas anodin. Je pense que la France, ça va pas battre la Pologne en Pologne aujourd'hui, hein. Faut pas rêver. Donc le Nigeria, il fait les choses très très bien. Et d'autant qu'il a un gros groupe avec la Croatie et l'Argentine. Moi, je suis juste une question. Alors peut-être que Freddy connaît la réponse, parce qu'il suit le foot africain. J'ai l'impression que Garnett Rohr, il pêche un peu sur la manière d'utiliser Iwobi et Iheanacho ensemble. Côte à côte, l'un derrière l'autre, un sur un côté, un dans l'axe. J'ai l'impression que c'est un petit peu aujourd'hui ce qui pourrait être la petite faiblesse du Nigeria, voir comment utiliser ces deux joueurs. Mais globalement, de toute façon, c'est une équipe qui a une puissance extraordinaire. On l'avait vu, l'Algérie était peut-être pas au top à ce moment-là, mais en éliminatoire, ils avaient roulé sur l'Algérie. C'est une équipe qui a des individualités, un gros collectif qui va très vite, très très vite.
Donc la victoire face à la Pologne, vient pas de nulle part.
C'est une victoire contre la Pologne. Ils ont mis 4-2 à l'Argentine quand vous avez un pouvoir offensif comme ça.
Sans Lionel Messi.
Sans Lionel Messi, oui, mais enfin Lionel Messi, il y avait quand même des joueurs en Argentine, hein, c'est pas n'importe quoi. Donc non, il y a un gros potentiel au Nigeria. Garnett Rohr, en plus, semble-t-il, a trouvé une formule qui marche plutôt bien, parce que des bons entraîneurs au Nigeria, il y en a eu plein, ça marchait pas toujours. Donc voilà, à prendre au sérieux, mais comme tous les 4 ans, le Nigeria sera à prendre au sérieux en Coupe du Monde.
Garnett Rohr, hein, qui essaie de calmer les esprits en disant on se calme, la Coupe du Monde est dans 2 mois et demi, ce ne sont que des matchs amicaux.
Il a raison.
Hein, parce qu'ils sont jeunes, tous ces joueurs.
Il a raison d'utiliser cette communication et de pas tirer des plans sur la comète. S'il se fait éliminer au premier tour, il le prendra dans les gencives. Mais aujourd'hui, vous regardez l'effectif, vous regardez le jeu. À part peut-être ce que fait Hervé Renard, mais en s'appuyant sur d'autres qualités, sur un football plus léché, plus technique, le Nigeria est l'équipe africaine qui me paraît être la mieux armée pour faire le mondial.
Non, mais c'est important ce qu'ils disent, c'est qu'en ce moment, au Nigeria, j'en ai discuté avec quelques amis nigériens, pas mal, ils ont de gros espoirs grâce à ces matchs amicaux. Ils ont eu une bonne phase éliminatoire notamment, mais ils ont de gros, gros espoirs. Même si ils se fichent pas mal du fait qu'ils soient avec l'Argentine encore une fois au mondial, etc. Mais eux, ils sont sûrs des certitudes, en rêvant notamment à une régénération des génération précédente avec les Wanko Kwan Lorès, ils se disent qu'avec cette génération Iwobi, avec Moses, ils ont là la crème pour certainement aller en quart de finale. Encore une fois, pourquoi pas penser aux demi-finales. Mais ils sont très, très croyants, vous le voyez.
Bon, on peut pas parler des adversaires, ceux qui ont été les adversaires du Maroc et de l'Iran vendredi, la Serbie, les adversaires du Maroc et de la Tunisie, pardon. Donc le Maroc a battu la Serbie et la Tunisie a battu l'Iran. Là encore, alors c'est des nations qu'on connaît un peu moins quand même que la Pologne. Quelle valeur vous donnez à des victoires face à ces deux nations, Marc Libra? C'est pas rien. Ce sont quand même des mondialistes.
Ce sont des mondialistes quoi qu'il arrive. Après, les matchs, il faut les jouer. C'est toujours de dire ah mais de toute façon ils ont marqué, ils en ont mis 3 ou ils en ont mis 4 contre. Mais il faut les marquer les buts. Il faut s'accrocher. Il y a peut-être des valeurs qu'ils ont su montrer. Les Colombiens, on prend l'exemple des Colombiens, ont montré des valeurs. Les remplaçants sont rentrés, ont montré qu'ils avaient envie de faire cette Coupe du Monde. C'est un groupe. L'équipe de France ne sera pas, ou ces équipes-là ne seront pas championnes à 11 ou à 12. C'est tout un groupe, tout un élément qui peut faire la différence. Aujourd'hui, je suis d'accord. Ces équipes-là ont beaucoup plus de structure, beaucoup plus de joueurs qui évoluent en Europe, qui sont maintenant, le problème, c'est par rapport au pays, il faut pas s'enflammer, quoi. Parce que là, les gens disent, ah, ben, ils ont battu l'Argentine, ils ont battu le Maroc. On parle beaucoup du Maroc actuellement, qui pratique, entre guillemets, peut-être le plus beau football. C'est ce que tout le monde dit. Parce que le Maroc va attention, faut pas s'enflammer. La compétition, elle va démarrer. Attention de pas la jouer avant la compétition. Parce que si on la joue avant, on passe à travers. Mais en tout cas, il y a peut-être une équipe africaine qui peut faire, qui peut créer l'exploit. Ils sont capables de le faire. Je pense qu'ils sont capables de le faire.
Alors, je vais poser ma question autrement. Est-ce que ça permet quand même de battre des équipes là qui seront en Russie, qu'on peut peut-être recroiser en Russie? Est-ce que ça permet au moins d'engranger de la confiance? Est-ce que ça peut faire la différence?
Vous engrangez évidemment de la confiance quand vous battez la Serbie. Et même quand vous battez l'Iran. L'Iran est une très bonne nation asiatique. hein, c'est pas n'importe quoi, mais surtout que vous les battez avec des valeurs dont vous aurez besoin à la Coupe du Monde. Ça a pas été des matchs faciles, hein, ni pour
donc
le Maroc,
vous rejoignez,
ça a pas été des matchs faciles, ni pour le Maroc, ni pour la Tunisie, ça a pas été des prestations footballistiques de très haut niveau, mais ça a été des matchs à l'abnégation, au combat. Vous regardez la Tunisie contre l'Iran, ça a été très haché, et les binationaux qu'on a parlé tout à l'heure, je trouve qu'ils se sont assez bien fondus dans le moule, on va en parler. Puis après, il y a le Maroc, mais quand vous alignez Ziyech, Amrabat, Belhanda, Belaïd, vous avez un petit peu de football quand même
très,
devant.
Très fort. Et les binationaux tunisiens, vous avez raison,
même si
on
la
va
Serbie,
en parler.
On en a déjà parlé dans cette émission, le contexte est très particulier.
Et on en reparlera. Les binationaux tunisiens, on voulait faire un petit peu notre focus, Frédéric, sur cette situation que doit gérer le staff des Aigles de Carthage.
Ah bah, plus que d'une situation à gérer, c'est un choix assumé. Hein, la fédération tunisienne, le sélectionneur Nabil Maalouf, il y a eu la qualification et on s'est dit, on va essayer de renforcer cette sélection, lui donner encore plus d'expérience. Et il y avait effectivement quatre binationaux qui évoluent pour trois d'entre eux dans les championnats français. Vous avez Elias Kiri à Montpellier, Hassen à Châteauroux, Raoui à Troyes, et puis Ben Alouane à Leicester en Angleterre. Il les a fait venir tous les quatre. Il y en avait trois de titularisés dès le coup d'envoi, Skiri, Raoui, Ben Alouane. Et Nabil Maalouf sait bien que la grande difficulté, au-delà du contenu sur le terrain, c'est de les intégrer dans le groupe, car ils n'ont pas participé aux éliminatoires. Il pourrait y avoir un petit peu de ressenti hein, de la part de ceux qui ont été là les mois précédents et qui ont assuré la qualif, mais visiblement tout se passe bien avec cette victoire face à l'Iran.
Et justement, on va peut-être l'écouter, Nabil Maalouf, le sélectionneur tunisien.
Je suis très, très satisfait de l'incorporation des nouveaux joueurs. C'est pas facile d'incorporer, voire 4 à 5 joueurs d'affilée dans les 11 rentrants. C'est un élément très positif pour l'équipe nationale. Je remercie surtout les joueurs qui étaient là avec moi pendant toute la période de la qualification, qui ont facilité la tâche et facilité l'intégration des joueurs nouveaux qui ne se sont pas sentis dépaysés. Quand vous voyez la moyenne d'âge des joueurs qui est de 23 à 24 ans, donc c'est exceptionnel pour l'équipe nationale tunisienne.
Freddy Koula, on n'est pas obligé de le croire, Nabil Maalouf, mais il nous dit que ça se passe bien. Il nous dit même que ceux qui étaient là, et Frédéric Suto en parlait, ceux qui étaient là avant, ceux qui ont participé à la campagne de qualification, bah, ils sont plutôt heureux, ils jouent le jeu et ils accueillent les petits nouveaux. Vous y croyez,
vous? Faire très attention avec cette notion de binationalité. Moi qui viens du continent, notamment, qui vis ça de près, je sais très bien que lorsqu'on intègre des binationaux, et c'est partout pareil, que ce soit au Maghreb et même en Afrique subsaharienne, quand ça se passe bien, il n'y a aucun problème avec les binationaux. On est ultra contents. Non, mais honnêtement, on est ultra contents de les avoir. On leur dresse tous les lauriers du monde, etc. Mais dès que ça va mal se passer, vous aurez des histoires qui vont commencer à sortir du vestiaire. Vous aurez déjà des histoires sur les histoires de clans. Il y aura des clans ou des gens qui sont binationaux qui viennent de France, etc. Il y a des gens qui sont nés en Tunisie ou qui sont nés dans le pays, etc. Tant mieux si ça se passe très bien. Mais le problème, c'est quand ça se passera mal. Mais pour l'instant, je suis sûr que Maalouf, de toute façon.
L'Algérie a un peu connu ça. Hein.
L'Algérie a connu ça.
La Coupe du Monde 2014.
Mais ce qui est bien, c'est qu'il a un temps paternaliste avec eux. Et je pense qu'ils ont, discuté bien avant avec.
Mais là, ce qui interroge, c'est pour ça que je parlais de situation à gérer, c'est que l'incorporation, elle se fait tardivement. C'est-à-dire qu'on approche de la compétition.
À 3 mois. Hein.
Et est-ce que c'est suffisant pour être sûr que l'alchimie se fasse?
À partir du moment où vous les sélectionnez dans les 23, vous les faites jouer, ou alors vous les prenez pas. C'est aussi simple que ça. On a 3 mois d'une Coupe du Monde, on peut pas se permettre de dire on fait jouer, on fait pas jouer. D'autant que, on parlait de Ben Alouane. Vous voyez, connaissez comme moi la situation d'Abdennour à Marseille. Ben Alouane, il peut très bien être titulaire pour la Coupe du Monde. Donc, les faire venir maintenant, c'est vaut mieux les faire venir maintenant que les mettre dans la liste des 23 définitives. Là, vous pouvez quand même un petit peu attiser les critiques, parce qu'il y a eu des critiques un petit peu populaires. Tout à fait normal. Donc oui, ça peut faire tard. Ça peut faire tard, mais compte tenu des joueurs qui sont à ces postes-là, notamment Ben Alouane pour Abdennour, ça reste jouable. Ça reste jouable. Et un garçon comme Kawi peut très bien mener de la variété dans le jeu devant. Même Sakni a été blessé encore sur ce match-là, peut très bien être pour la Coupe du Monde. Donc c'est bien les incorporer. Après, il y a binationaux et binationaux. Il y a ceux qui n'ont jamais été approchés, qui sont nés en France, mais sont nés en France, que vous voulez qu'on y fasse, mais n'ont jamais été approchés. Puis il y a ceux qui ont été approchés plusieurs fois, qui ont refusé. C'était le cas de Ben Alouane, c'était aussi le cas de Moïse Hassen. Je comprends, moi, qu'il y ait des critiques au pays en disant, eux, ils ont visé l'équipe de France, et puis ils ont 28-29 ans, ça marche pas, finalement, ils viennent. Le problème, il vient. Et c'est voilà, quand
et
tu
là, ils disent, on va discuter de la Coupe du Monde.
Et quand tout à l'heure, Freddy parlait de contexte, de machin, moi, je pense que des garçons comme Ben Alouane, ils seront beaucoup plus pris pour cible que des garçons comme Kawi, par exemple.
Exactement. Marc, vous êtes un ancien joueur, alors vous n'avez pas forcément connu ce problème de binationaux. a priori.
Les franco-marseillais, quoi.
c'est ça. J'ai pas eu jeu que pour Marseille.
Pas mal.
Et à l'époque, il y avait des clans, hein, en plus, hein. Marseillais, parisiens en équipe de France. Donc... Mais en tout cas, quand vous voyez débarquer dans un vestiaire, vous pouvez vous mettre un peu dans la peau d'un joueur de foot qui vient, qui voit débarquer dans un vestiaire un joueur, qui arrive, prendre la place d'un autre, qui a fait le travail, qui faisait le travail en attendant. Ça peut, vous imaginez les tensions que ça peut créer?
Oui, j'imagine très bien les tensions et je les comprends. Maintenant, si la personne, elle est très forte et elle est très bonne, elle vous fait gagner, on oublie rapidement. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un sport, un joueur 11, mais c'est très individuel. Moi, j'ai joué avec des joueurs, le mec, il me fait gagner, je suis le plus heureux. Après, si le mec, il vient, il prend la place d'un de mes copains et qu'il se bouge pas et qu'il fait pas l'effort, moi, je l'ai vécu qu'en club. Après, quand vous levez au niveau du pays, que, comme on le disait, c'est clair, il attend l'équipe de France, il attend un peu une Coupe du Monde. Ah ben, finalement, je vais rester. À l'époque, je me rappelle Olivier Chouafny, juste avant 98, c'était Henri Michel qui était venu plusieurs fois pour jouer avec le Maroc. C'est une anecdote. Et il a pas voulu. Il a dit, je vais tenter l'équipe de France. Bon, mais il est jamais allé en équipe de France. Et il a jamais joué avec le Maroc aussi. Donc, vous voyez, c'est toujours délicat. Mais je me rappelle, j'étais très proche de Olivier Chouafny, il me disait oui, mais je sais pas, j'ai l'équipe de France, et le Maroc est venu plusieurs fois le voir. Et c'est vrai que s'il fait ce choix pour une Coupe du Monde, ben finalement je suis marocain, je joue avec le Maroc, je suis un joueur marocain qui joue au pays ou qui est validé mon pays depuis 14 ans, 15 ans, toutes les sélections, ça fait très bizarre. Parce que là, s'il rentre, il faut être irréprochable. C'est pour ça que les critiques, elles vont tomber sur certains joueurs. Neymar a raison. C'est bien sûr sur certains joueurs, parce qu'ils l'ont cherché aussi. Et c'est dommage.
Vous avez maintenant un contre-exemple. De toute façon, c'est Ben Yedder. Ben Yedder, il a été approché par la Tunisie à l'époque de Toulouse. Il a toujours refusé. Et ouais. Dieu sait qu'il aurait été titulaire avec le niveau qu'il a. Aujourd'hui, il est en équipe de France. Et dans les années à venir, des mecs qui seront approchés, qui auront 25, 26, 27 ans, reculeront encore peut-être le fait de partir jouer avec la sélection du pays d'origine, bah parce que les Bleus, ça peut tomber à tout moment.
Le reproche aussi, c'est sur le discours des joueurs qui sont approchés des fois.
Bien sûr, hein.
Avant qu'ils ne soient approchés, ou quand ils sont approchés avant de venir en sélection, il y en a qui te disent, ouais, non, mais je suis pas pour l'instant prêt à venir, etc., j'attends le bon moment, parce que justement, il y a une éventuelle sélection de l'équipe la plus top, et finalement, il vient par défaut, et c'est ça qui est énervant pour les fans.
Alors, dernier mot sur ces sélections africaines, je voulais qu'on parle de l'Égypte, donc qui a tenu tête au Portugal grâce notamment à Mohamed Salah, incontournable en club, en sélection. L'Égypte doit-elle se réjouir d'avoir un tel joueur? On serait tenté de dire oui, mais on a l'impression que derrière lui c'est le désert. Alors s'il se blesse, s'il venait être suspendu, et s'il est fatigué, qu'est-ce qui va se passer pour l'Égypte?
Il sera fatigué, il prendra des vitamines.
C'est vrai qu'Al-Nani est moins bien en ce moment, mais
c'était un peu le cas aussi pendant les éliminatoires.
Est-ce que c'est pas trop pas dangereux, le terme est excessif, d'être dépendant d'un joueur qui écrase vraiment tous les autres?
C'est pas grave. C'est la qualité. Le défaut, c'est que quand il est en forme, il peut tout faire contre n'importe qui, sauf que le jour où il est pas bien, vous n'avez que lui. Et un gros bloc défensif, les équipes à la coupe perdent, c'est ce que c'est. Mais bon, globalement, l'Égypte est suffisamment bien structurée, bien organisée, même si c'est pas très beau à regarder, à pas prendre des valises à la Coupe du Monde si Salah est pas bien. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu la seule arme à disposition, et le Portugal a outrageusement dominé cette rencontre quand même.
C'est à ce moment-là qu'on se dit, on a un joueur, on a une star, et on mise tout sur lui, et lui va nous faire gagner. C'est le cas pour une équipe comme Salah. C'est-à-dire que la plupart des joueurs sont corps et âme dévoué pour
ça. Vous avez connu ça, vous, dans votre carrière? Jean-Pierre Papin, par exemple, à l'OM, ça pouvait être un petit peu ça?
Nous, à l'époque de l'OM, on avait un attaquant de pointe et on jouait tout pour lui et lui devait nous faire gagner. Donc, ça a souvent été le cas, puisque, rappelez-vous, il y a eu Jean-Pierre Papin, il y a eu Rudy Voller, il y a eu Bokchik, il y a eu Cascarino, il y a eu Sonny
Anderson.
Tous les attaquants dont je vous parle, ils ont chaque fois été meilleurs buteurs ou marqué. Sonny Anderson met 16 buts en l'espace de 6 mois, je joue à ses côtés. Donc, nous, c'était comme ça, mais on le savait, mais on était très heureux. Par contre, c'est vrai que s'il marquait moins, on était un peu emmerdé, mais à l'arrivée, on misait, et Tapie à l'époque disait, moi j'ai un attaquant, donnez-lui les ballons, lui c'est marquer les buts. Et, croyez-moi, Tapie s'est jamais trompé sur les attaquants. Vraiment, c'est et même l'époque de Cascarino, quand on récupère Cascarino, c'est une petite parenthèse, on s'attend pas à ce qu'il mette 61 buts en 2 ans. On me dit, oh, mais c'est en Ligue 2. En Ligue 2, est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a mis 31 buts et 30 buts en 2 ans? Pas grand monde.
Bon, ça là, Freddy Koula, pour terminer sur lui, il doit continuer, il doit terminer la première ligue, il doit poursuivre son parcours en Ligue des Champions. Ça fait encore beaucoup de matchs jusqu'à la fin de la saison. C'est pas un peu trop? En tout cas, est-ce que les risques n'augmentent pas à chaque fois qu'il refoule une pelouse?
Égyptiens, nous les Africains, même au sud du Sahara d'ailleurs, Vous allez le voir même en tweet ou sur Facebook, vous allez voir qu'il y a très vite eu la comparaison entre Salah, Ballon d'Or africain, et Cristiano Ronaldo, Ballon d'Or. Quand Salah a marqué le but, allez voir sur le hashtag, vous allez voir, genre, Salah, le Ballon d'Or africain, a réussi à en train de battre Cristiano Ronaldo. C'est pour dire l'espoir qu'il y a autour de ce joueur-là qui brille en ce moment. Tout le monde croise les doigts pour qu'il ne se blesse pas, parce que s'il se blesse, ce sera un gros coup sur l'Égypte, et non seulement sur l'Égypte, mais aussi sur tout le continent, parce qu'on a de grands, grands espoirs sur cette équipe égyptienne, notamment Salah, c'est l'homme providentiel.
Bon, on a beaucoup parlé de football africain. Je vous propose, il nous reste un peu moins de 10 minutes, de changer de continent. Mais on en parlera beaucoup cette semaine dans Radio Foot. Je vous rappelle qu'Annie, à partir de mercredi, vous la retrouverez à Dakar pour des émissions spéciales.
On a chance.
Je vous le dis. Allez, on change. Effectivement, elle a beaucoup de chance. On change de continent et on va filer en Amérique du Sud. Et pour parler football sud-américain.
Qui de mieux
qu'Alejandro Valente. El Refe.
Bonjour.
Bonjour Alejandro. Alors vous avez remarqué, vous nous avez fait remarquer que les équipes sud-américaines qui seront en Russie cet été, eh bien ce week-end, enfin en tout cas ces derniers jours, lors de leur match de préparation, elles avaient signé tout simplement un sans faute. Alors je vais simplement rappeler les résultats. Victoire du Pérou face à la Croatie 2-0. Le Brésil qui a battu la Russie en Russie 3-0. L'Uruguay, victoire 2-0 face à la République tchèque. Et puis victoire tout à l'heure face au Pays de Galles 1-0. Ça lui permet de remporter une compétition amicale dont j'ai oublié le nom. Argentine, victoire en Italie, plutôt non, face à l'Italie, oui. C'était en Angleterre, 2-0. Et puis la Colombie, ai-je besoin de le rappeler, a battu l'équipe de France. Et vous voyez une raison, vous avez une explication pour ces bons résultats?
Je ne sais pas s'il y a une explication, mais comme d'autres équipes, les équipes dont on a parlé étaient en manque de certains joueurs importants. Messi n'a pas joué avec l'Argentine, Neymar n'a pas joué avec le Brésil. Tout ça n'a pas empêché quand même ces bons résultats. Je l'attribue à plusieurs facteurs. Bon, déjà, les équipes sud-américaines sont toujours très motivées à l'approche de la Coupe du Monde. On sent qu'on n'a pas, comme dans d'autres régions, des discussions sur les primes, sur ceci, sur cela. Les joueurs sont prêts à aller en Chine ou n'importe où, comme ça a été le cas pour les Uruguayens Suarez et Cavani. Ils n'ont pas hésité à faire ces longs déplacements pour jouer pour leur pays. Donc il y a cette envie, cette volonté, cet attachement au maillot qui, à mon avis, est tout à fait... Ouais. Déterminant. Je pense aussi que les éliminatoires qui sont éprouvantes en Amérique du Sud, avec quand même chaque équipe dispute 18 matchs avec des gros déplacements à effectuer à chaque fois, plus deux Copa América qu'on a eu ces dernières années, tout ça a permis au moins à la plupart des entraîneurs de bien roder leurs effectifs. C'est l'avantage de ces systèmes. Ils ont pu jouer des matchs de haut niveau. À chaque fois, c'est des matchs au couteau. Donc, ils sont habitués à des compétitions très, très dures. Alors que parfois des équipes européennes ou d'autres continents sont surprises quand elles arrivent à la Coupe du Monde et qu'elles retrouvent une forme d'agressivité ou des compétitions qui est un peu différente. Donc je pense qu'il y a beaucoup de raisons effectivement qui...
Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais toutes les équipes sud-américaines ont toutes battu les équipes européennes. Mmh. Et ça prouve quand même quelque chose, un vieux mythe qui dit qu'en général quand la Coupe du Monde est organisée en Europe, très rarement les équipes européennes la gagnent, souvent ce sont les équipes sud-américaines.
Mais je disais avant l'émission, et c'est vrai que c'est assez flagrant, c'est l'état d'esprit des Colombiens. Les deux commentateurs, ah mais on dirait qu'ils sont déjà en phase de...
Mais c'est ça.
Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais pourquoi on est quoi là? C'est guinguette, on s'amuse, c'est quoi? C'est Paris plage, on fait quoi? Les mecs étaient survoltés, les mecs étaient à 200%. Et nous, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on avait des champs qui étaient assis, qui parlaient avec la main.
Non, mais t'as raison.
Tranquillement. Et on avait des Colombiens qui étaient en furie. On va ce petit rappel. On perd face au Portugal, parce que l'Euro, pour moi, c'est un échec cuisant, c'est honteux. On perd face à une équipe du Portugal qui a simplement été... On va être une équipe testiculaire qui nous a battu sans le grand Ronaldo, d'accord? Et nous, on a perdu face à cette équipe-là. Elle a été meilleure sur le plan mental. Et on se rend compte que on est à quoi? 3 mois de la Coupe du Monde, on a les mêmes problèmes. On se fait bouger par des mecs qui sont moins forts que nous, mais à l'arrivée,
ils sont déjà en mode Coupe du Monde.
Et nous, on nous dit, attendez, on se prépare. Ah bon? Ah bah alors, préparez-vous,
dans
les
gars. Dans le prolongement de ce que dit Marc, ça, c'est un état d'esprit qui est insufflé par le sélectionneur. C'est les sélectionneurs sud-américains de toute façon,
mais
ils ont une manière d'aborder les compétitions qui d'abord dans leur mentalité exclut les matchs amicaux et qui surtout fait qu'ils arrivent en mode compétition avant la compétition. C'est pas on fait la phase de poule, machin, puis à partir des huitièmes, ah, c'est une autre compétition, là, on entre dans les choses sérieuses. Non, eux, ils y sont déjà 6 mois à l'avance. Et ça, ça ment pas. Ils ont joué que des grosses équipes, mis à part le Brésil qui bat, bon, là, une petite Russie.
Enfin, ça reste le pays haute de la prochaine Coupe du Monde. Ça reste le pays haute,
mais bon, en termes de jeu, voilà. Mais ils ont battu que des grosses nations. Que des grosses nations. Il n'y a pas de mystère à un moment.
Et on retiendra que le mot testiculaire donc, est employé sur RFI, la radio
les équipes. Non, mais une équipe testiculaire,
demain, on a quand même deux affiches exceptionnelles. C'est d'un côté Brésil-Allemagne. On se rappelle quand même le 7-1, c'était le dernier rendez-vous. Donc ça, c'est...
Alors, s'ils sont déjà très motivés à l'idée de disputer la Coupe du Monde, les Brésiliens, ça va encore plus les motiver, je pense, d'affronter l'Allemagne.
Et puis Espagne-Argentine aussi, qui est quand même un gros choc également.
On suivra ça forcément attentivement. L'Amérique du Sud est à la recherche d'un premier succès en Coupe du Monde depuis 2002, le Brésil qui s'impose en Asie. Alors j'ai pas de souvenir exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, Freddy, mais c'est rarement les équipes sud-américaines qui s'imposent quand la compétition a lieu en Europe. Il y a eu le Brésil en 58 en Suède.
Vous savez, jusqu'en 2002, la Coupe du Monde était une affaire entre l'Europe et l'Amérique. Donc il y avait une année en Europe, une année en Amérique, et en général, la plupart du temps, c'est l'équipe
du continent qui
gagnait. Donc en 2002, ça a changé. On est allé en Asie, puis en 2010 en Afrique. Donc les choses ont évolué. Globalement, les équipes européennes tirent mieux leur épingle du jeu en finale, mais on remarque quand même que les équipes sud-américaines sont pratiquement à 100% capables de franchir le premier tour et qui arrivent souvent en force en quart de finale, voire en demi-finale. Donc c'est... Ça reste quand même assez équilibré, me semble-t-il, même si évidemment la puissance des équipes européennes fait souvent la différence en finale.
Mais ce surplus de motivation qui vient peut-être d'une disette en termes de victoires, même si chaque équipe sud-américaine est différente, hein, y a pas forcément de conscience sous-continentale, mais est-ce que ça peut créer un regain de motivation, générer un regain de motivation, Freddy Coulard?
J'ai regardé encore il y a pas longtemps le documentaire sur Pelé, c'est là où je me rends compte qu'en fait, il y a un ADN, Coupe du Monde, envie de montrer l'existence de sa nation au travers du football dans ces pays sud-américains, là, notamment. La Coupe du Monde se prépare pour eux dès que la précédente finit. C'est-à-dire qu'ils pensent déjà à la prochaine Coupe du Monde, en ayant terminé celle qui vient de précéder, notamment si ça termine sur un échec. Ils respirent ça, je pense, ces pays sud-américains, on a cette impression-là, cette envie de montrer, de briller. Et quand ils pleurent à chaque fois que leur équipe, j'ai vu notamment dans le documentaire, quand le Brésil entier pleure alors que le Brésil n'arrive pas à franchir les demi-finales ou n'arrive pas à gagner une Coupe du Monde, ça prouve tout l'envie, en fait, que ces gens-là mettent dans cette compétition-là, qui n'est pas une compétition anodine comme les autres ou un simple jeu pour eux. C'est une identité, c'est une envie de marquer leur autonomie.
Alors, Alejandro soulève aussi un point important, Neymoniol. Il y a eu deux Copa América, les éliminatoires ils sont longs, il y a des matchs compliqués qui s'étalent sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Est-ce qu'il y a un déséquilibre en termes de préparation entre les équipes européennes, par exemple, et les équipes sud-américaines qui, elles, disputent des compétitions, des matchs de très haut niveau depuis quasi 3 ans, au moins plus de 2 ans?
Ça compte forcément, hein, quand vous avez des éliminatoires avec la Suède, la Bulgarie, la Biélorussie, une petite équipe des Pays-Bas, et que vous avez à côté de ça le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay dans la même zone, sans compter les Copa América, sans compter la Coupe des Confédérations. Oui, évidemment, quand vous jouez les grosses équipes, vous êtes mieux préparés. Après, quand vous jouez trop, ça peut aussi vous desservir. Il se rattrape un peu sur les clubs, mais quand vous jouez trop, ça peut aussi vous desservir. Mais globalement, les équipes sud-américaines arriveront préparées et évidemment au top à cette Coupe du Monde. Moi, je crois, après, il faut que je regarde le tirage, s'ils ne peuvent pas se voir avant, un Brésil-Argentine sur cette finale.
Ah, carrément. c'est votre
pronostic. Carrément.
C'est qu'on ressort ça à 17h58.
À 17h58, le 26 mars, je t'annonce Brésil-Argentine.
Ça serait dommage parce que le Brésil est tellement en ordre de bataille, ce serait dommage de les voir en demi plutôt qu'en finale, je pense. Parce que cette équipe du Brésil-là, elle respire l'envie d'aller loin dans cette compétition. J'ai vu encore quelques images.
Elle respirait l'envie d'aller loin dans la compétition également en 2014. On voit ce que ça a donné, l'émotivité extrême des Brésiliens. Merci Marc Libra, Naïm Moniol, Freddy Coulard, Frédéric Suto et Alejandro Valente. Radio Foot revient demain. Ciao, bonne soirée sur RFI.